France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Quand on parle de mines en France, on voit Germinal tout de suite, et puisqu'il reste des terrils dans le Nord, on voit un passé révolu, on voit des conditions de travail difficiles. On n'a pas ouvert de mines depuis plus de 50 ans chez nous, et pourtant, nos vies de batteries électriques et de numériques nous posent la question, parce que c'est bien dans le sol qu'on va chercher les éléments indispensables à la fabrication de nos outils, d'aujourd'hui et de demain, ceux par ailleurs qui participent également à notre transition écologique. Et aussi, peut-être qu'on le touche réellement du doigt seulement maintenant, ces éléments-là participent à notre souveraineté. Il n'a échappé à personne que derrière les ruades de Donald Trump contre l'Ukraine, il y a une lutte à bas bruit pour les métaux stratégiques. Trump ne s'inquiète pas de l'Ukraine, mais de ses métaux rares. Trump sait aussi bien que nous d'ailleurs, que la Chine détient 37% des réserves mondiales connues, 60% des ressources, elle fait travailler la République démocratique du Congo par exemple, et 96% de la production mondiale. Nous ne sommes pas dépendants de la Chine, nous sommes enchaînés à la Chine. Alors est-ce que la solution est sous notre sol, ou une partie en tout cas de la solution? Et si oui, est-ce que chiche, on rouvre des mines? Ça va commencer à petite échelle dans l'Allier, on y viendra d'ailleurs, on en a beaucoup parlé ici même à un moment. En Europe, l'un des gisements les plus prometteurs est en Laponie, donc en Suède. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'environnement? Qu'est-ce que ça veut dire pour les villes qui sont concernées? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour notre souveraineté? Qu'avons-nous dans notre sol? Pouvons-nous, au nom de notre indépendance et de notre souveraineté, rendre socialement acceptable de creuser le sol? Bien sûr, nous parlerons aussi recyclage, nous parlerons de substitution. Est-ce que ça suffirait à nos appétits numériques? J'entends ceux qui disent déjà il faut décroître. Pas sûr que nous soyons, que nous voyons en tout cas en ce moment, des signes disant que nous sommes prêts à aller jusque-là. Alors est-ce qu'on creuse, baby, creuse ou pas? C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est Louis. Je vais lire son appel. Et il nous dit ceci. Il n'est pas tout seul. Non, il est un peu tout seul autour de ça, en fait. Donc allons-y. Louis, mais bien sûr qu'il faut rouvrir les mines, nous dit-il. Vous n'en avez pas marre de polluer chez les autres? Si nous voulons de la techno, il faut en assumer les responsabilités. J'imagine qu'une mine peut être non polluante si on en met les moyens. Bah écoutez, on va la poser, cette question-là. Merci à vous, Louis, pour répondre à toutes vos questions ce soir jusqu'à 20h et participer à cette discussion. Il y a Olivier de Mougins, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la stratégie du groupe Emeris, vous êtes le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, la mine de lithium dans l'Allier, vous allez pouvoir nous en parler parce que c'est vous. Mine reconnue, projet d'intérêt national majeur, et ça aussi on en parlera parce qu'on expliquera ce que ça veut dire. Patrice Geoffron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Paris Dauphine, vous êtes le directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Et puis Christophe Poinceau est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général délégué du Bureau de recherche géologique et minière, et c'est vous qui savez explorer les sous-sols, c'est votre métier et surtout ce qu'ils referment. C'est à vous deux que j'ai envie de poser la question, Olivier de Mougins peut-être d'abord. Bien sûr, nous dit Louis, j'imagine qu'une mine peut être non polluante si on en met les moyens. Est-ce qu'il imagine bien, Louis?
Alors, avoir une mine qui a un impact totalement neutre, c'est pas possible parce qu'on enlève de la matière, c'est un fait. La question, c'est comment on la rend responsable. Le terme qu'on préfère, nous, c'est responsable. On le fait en opérant dans un cadre qui est hyper strict en France. On a la chance d'avoir ce cadre très strict. Et ça veut dire qu'on va réfléchir à notre impact sur l'eau, sur les émissions, sur la biodiversité.
Vous réfléchissez ou vous n'avez pas d'impact?
On l'étudie, cet impact, et on va soit essayer de ne pas en avoir, soit le réduire.
Donc vous avez un impact. Non, mais
on a un impact, et notre travail, c'est de l'éviter, le réduire ou le compenser.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est le plus polluant quand on décide de se mettre dans une mine comme celle de l'Allier, par exemple? C'est quoi? Est-ce que c'est l'extraction? Est-ce que c'est après? Est-ce que c'est effectivement les eaux aux alentours? Qu'est-ce qui est le plus polluant, le plus préjudiciable à l'environnement?
Alors, je ne parlerai pas de préjudice, mais les sujets sur lesquels on va travailler le plus, quand on prend l'exemple de l'Allier, ça va être par exemple l'eau, puisqu'on a, pour les procédés qu'on utilise, une consommation d'eau, et tout notre travail, ça va être de la recycler. On recycle plus de 90% de l'eau dans notre projet, de manière justement à avoir un impact très réduit.
Est-ce que vous, dans l'Allier, c'est du lithium, Christophe Poinceau, avant d'aller plus loin dans la discussion, moi j'aimerais bien qu'on mette des mots sur les choses en fait, parce qu'on parle de lithium, on parle de cobalt, on parle de beaucoup de choses et on parle de terres rares spécifiquement. Qu'est-ce qu'on met dans chacune de ces définitions? Des terres rares, c'est quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans?
Alors, les terres rares, c'est effectivement une famille de produits chimiques naturels hein, qu'on trouve partout, dans notre sous-sol. Hein, donc, il y a 16 éléments, si vous voulez, qui sont en général assez peu concentrés dans la plupart des endroits, mais il y a des zones qu'on recherche dans lesquelles la géologie a permis à ce que ça se concentre et que du coup, on puisse les exploiter de manière économiquement rentable. Alors, soyons clairs, c'est un peu le porte-drapeau du sujet, les terres rares, on en parle beaucoup.
Ouais.
Mais c'est loin d'être les seuls éléments dont on a besoin. On parlait à l'instant du lithium. Le lithium n'est pas une terre rare, il est pourtant indispensable pour nos batteries. On parlera aussi sûrement à un moment du nickel, du cobalt, du tungstène. Donc voilà, faut se dire que les terres rares, c'est un peu le porte-flambeau d'un sujet plus global de ce qu'on appelle les métaux stratégiques, qui sont indispensables pour nos technologies, en particulier pour la transition énergétique, qui sont indispensables pour nos industries et qui sont, je dirais aussi, indispensables pour notre souveraineté, dans la mesure où aujourd'hui, on dépend fortement pour nos approvisionnements d'un certain nombre de pays, et vous avez cité à bon escient la Chine.
Bien sûr, alors on va y venir, bien sûr. Moi, je voudrais savoir aussi, avant de donner la parole à Patrice Geoffron, si on sait ce que nous avons, nous, sur notre territoire. Parce qu'avant de nous poser la question de savoir si on va creuser, la question c'est est-ce que ça vaut le coup de creuser, en fait ? Qu'est-ce qu'on a, nous ?
Alors,
et est-ce qu'on le sait d'abord ? Ou est-ce qu'il faut creuser avant de savoir ?
C'est une très bonne question et ça va peut-être surprendre une partie de nos auditeurs, mais bien qu'on soit un grand pays à l'histoire minière reconnue, on est loin de savoir encore tout ce qu'on a sous nos pieds. La dernière fois qu'on a fait cet exercice d'inventaire, c'était il y a une quarantaine d'années. On avait des technologies ou des techniques qui étaient évidemment nettement moins performantes. On n'était pas capable de regarder en profondeur. Mmh. Et donc, aujourd'hui, on a une connaissance qui reste assez superficielle. Et ça explique la décision forte qui a été prise par le président de la République en septembre 2023, dans le cadre de la planification écologique, de relancer un inventaire des ressources qui sont présentes dans notre sous-sol, de manière à ce qu'on puisse savoir un peu mieux qu'est-ce qu'on a. Et ce que nous dit la géologie, a priori, c'est que sur un certain nombre d'éléments, et je prendrai comme exemple le lithium, on a des ressources qui sont tout à fait importantes et qui pourraient être valorisées, évidemment, s'il y avait une décision politique qui allait dans ce sens.
Et c'est bien ça la clé, non, Patrice Geoffron. Je pense qu'on y viendra tout au long de cette émission. Il faut non seulement la décision politique, mais il faut l'assentiment. Et l'assentiment, le fait que les gens trouvent normal, en fait, d'ouvrir une mine. Est-ce que c'est pas ça, au fond, le plus difficile ?
Oui, merci Fabienne de nous réunir. Je pense que c'est la bonne question. On en discutait tout à l'heure en préambule. On a quand même le sentiment que l'essentiel des problèmes qui a ayant une matérialité ont été restés au XXe siècle. Moi, j'ai grandi au sein des terrils que vous évoquiez tout à l'heure en introduction. Donc, j'ai des souvenirs évidemment lointains, mais de terrils et d'activités minières qui étaient
encore en fonctionnement. Du coup, vous avez aussi un souvenir d'après-mine, en fait, parce que parmi tous les gens qui nous écrivent, il y a aussi l'après-mine.
Je me souviens mieux des mines que de l'après-mine. Enfin, l'après-mine, de fait, elle est dans notre histoire, puisque les mineurs étaient dans la rue et que les reconversions étaient très violentes. Mais enfin, voilà, c'est un passé qui est lointain, qui est du XXe siècle, du XIXe peut-être, et vous avez évoqué Zola, et donc dans l'inconscient ou dans l'imaginaire collectif, c'est ça. Or, tout ce qui est autour de nous, dans ce studio, tout ce qui est dans nos poches, vous avez évoqué, Louis, les questions évidemment de transition, mais pas uniquement, les objets du quotidien, bien notamment sûr, en matière numérique. La question du militaire également va être extrêmement dense en nécessité dans ces domaines, conduit à rouvrir le débat. Ça se fait à coup d'épaule dans le contexte géopolitique que l'on sait, donc c'est assez violent. Et évidemment, ça va supposer une évaluation. Notre ami du BRGM évoquait le fait qu'on ne connaît pas bien notre sous-sol. Alors ça vaut d'ailleurs en passant aussi pour l'Ukraine. Lorsque Trump dit « je vais récupérer 500 milliards dans le sous-sol de l'Ukraine ».
Souvent, il n'en sait rien, mais ça n'a pas commencé. Voilà. On va parler de temps aussi, et le temps. Allons-y d'ailleurs, parce que j'ai lu en préparant cette émission que le fameux gisement en Laponie était effectivement très conséquent et très prometteur. Mais pour commencer à vraiment voir que ça nous sert, il faudra 10 à 15 ans. Oui, est-ce que le temps minier et le temps numérique sont réellement compatibles ? Je vous poserai la question à tous les deux, Patrice Geoffron, puisque je vous ai interrompu.
Oui, alors en tout cas, à minima, ça nous laisse le temps du débat.
Comme vous dites.
Ça conduit à considérer les choses avec tout le sérieux nécessaire. Donc c'est des mines, il faut creuser. Il faut creuser dans les conditions, si c'est chez nous, qui soient les plus propres possibles. Ça suppose également des infrastructures, du transport par la route, par le rail. Ça suppose également d'imaginer l'ensemble du cycle, c'est-à-dire à la fois l'extraction, mais jusqu'au recyclage in fine, la valorisation.
Mais
j'imagine
vous,
qu'il y a certains termes qui vont apparaître, par exemple celui de mine urbaine, qui est un peu étrange, mais ça consiste à dire que Paris regorge de ces minerais, dans nos poches pour l'essentiel, Et donc, il faut également imaginer d'exploiter via le recyclage.
Mais vous, spécialiste de géopolitique de l'énergie, Patrice Geoffroy, est-ce que vous dites oui, on creuse ?
Alors moi, je dis oui, il faut avoir le débat. Je dis c'est à nos concitoyens. J'étais membre pendant un peu plus d'un an de l'équipe qui accompagnait la Convention citoyenne pour le climat. Donc il faut évidemment débattre de tout ça. Mais je dis qu'en tout cas, on ne pourra pas se fermer les yeux. Les Américains l'ont fait longtemps. Les Américains ont beaucoup de ressources dans ces domaines. Ils ont arrêté de les extraire. Ils vont recommencer chez eux.
Parce que c'était moins cher de le faire.
Parce que c'était moins cher ailleurs. Et puis, ça permettait de le faire dans des conditions environnementales qui soient moins restrictives. Et donc, on s'est lavé les mains de tout ça. Et on est dans un monde dans lequel ça va devenir très compliqué pour nous.
Christophe Poinceau, vous vouliez intervenir, je l'entends dans mon casque, sur le temps, le temps géologique, j'avais presque envie de dire, et le temps numérique qui va 40 fois plus vite. Quand je dis 40, 4000 fois plus vite.
Oui, bien largement. Ouais. Non, effectivement, je voulais revenir sur cet aspect qui est fondamental, hein, de l'industrie minière et l'industrie de transformation qui va ensuite. Ce sont des industries au temps long qui nécessitent des investissements tout à fait conséquents. Alors pourquoi ce temps long ? Parce que le temps de caractériser le sous-sol, de faire les études, est intrinsèquement un temps assez incompressible et assez long, même si on pense que l'intelligence artificielle nous permettra d'accélérer. Et puis parce qu'il faut aussi le temps du débat sociétal, il faut le temps du débat public, il faut le temps des études économiques. Et tout ça fait qu'en moyenne à l'échelle mondiale, l'Agence internationale de l'énergie avait estimé qu'il faut 17 ans entre le moment où vous dites que vous allez lancer une mine et le moment où celle-ci se met à produire. Alors évidemment, ça cache une grande variabilité derrière. Mais ce qu'il faut vous dire, quand même, c'est ce qu'on est en train de lancer aujourd'hui. Les initiatives qui sont prises, elles, quelque part, elles feront effet dans la deuxième partie de la décennie prochaine. Et donc, ce n'est pas des réponses pour le lendemain matin.
Je ne peux pas m'empêcher de penser, Olivier Mougin, que dans 17 ans, quand on aura commencé à ouvrir les mines, peut-être, on aura trouvé autre chose et que désormais, on n'aura plus de batterie dans les voitures parce qu'il y aura quelque chose de différent, ni de panneaux solaires, et qu'on aura trouvé quelque chose de substitution pour nos téléphones et nos ordinateurs.
C'est tout le travail, et justement, de dérisquer ces horizons de temps. Alors, on est très confiant que le lithium est là pour durer, parce que pour des raisons chimiques, c'est un élément qui est léger, et ça sécurise son usage.
Après, ce que je trouve intéressant, c'est que votre projet, vous, il est dit projet d'intérêt national majeur. Ce que ça veut dire, c'est que ça parle de souveraineté, projet d'intérêt national majeur. Ça veut dire que vous pouvez accélérer un certain nombre de choses et avoir aussi des dérogations administratives. Et puisqu'on était en train de se parler de temps, c'est aussi ça que ça veut dire. Est-ce qu'entre guillemets, ça dit, on ne va pas s'embarrasser à demander trop d'avis et à faire à poser des questions à tout le monde. On y va puisqu'on est projet d'intérêt national majeur.
Alors, ça veut dire ça, mais ça veut dire ça de manière très mesurée. Hein. Le temps qu'on gagne, on n'est pas en train de dire qu'on va passer de 17 ans à 5 ans. Hein. On est en train de parler de quelques semestres.
Ouais.
Voilà, donc on reste sur ce temps très long.
Et vous, ça commence quand d'ailleurs, du coup, maintenant est parti ?
Ça fait les années qu'on y travaille, et donc l'objectif, c'est la fin de la décennie. Entrer en production à la fin de la décennie. En France, c'est 700 000 véhicules électriques qu'on veut équiper par an avec ce projet.
Fin de la décennie, donc 2030, ou en tout cas dans ces eaux-là. Patrice est avec nous. Bonsoir, Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
J'espère que ça n'a pas coupé parce que je vous appelle de la forêt meusienne. Donc ma question se porte justement sur la Lorraine. Il se dit qu'en Lorraine, il y aurait des potentiels de terres rares, peut-être du lithium. Alors je voudrais savoir ce que ça représenterait en termes de surface. Est-ce qu'il y a des choses déjà prévues pour limiter les impacts environnementaux ? Et vous avez évoqué un mot très très important, c'est l'assentiment. Et là, excusez-moi, mais je n'y crois absolument pas. L'assentiment des populations... on s'en fout complètement. Je ne ferai pas un topo sur ce qui se passe dans le sud meusien, vous avez compris.
Ah bah oui, on a l'habitude. On a l'habitude avec vous, Patrice. On connaît votre attachement autour de Bure. Et c'est vrai que la question, elle se pose, celle de l'assentiment. Il a raison, notre auditeur. Moi, je me demandais, Patrice Geoffroy, si la géopolitique du moment, si le contexte du moment était favorable à ce genre de débat, comme nous sommes en train de le faire, parce qu'il faut le faire lorsqu'on sait ce que ça dit en termes de nécessité. Est-ce que ça aide ou est-ce que ça dessert ? Est-ce qu'on n'entend pas plutôt « Oh là, attendez, on ne discute pas à chaud », à votre avis ?
Je ne peux pas répondre pour nos auditeurs. Moi, il me semble qu'en tout cas, ça doit conduire à la lucidité. Hein, ce qui est en train de se passer, évidemment, est une alerte. Ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des matières premières dont nous sommes extrêmement dépendants. Et à plus court terme, d'ailleurs, pour le pétrole et pour le gaz. Refermons cette parenthèse. Mais en tout cas, si on veut aller sur le chemin de la transition numérique et de la transition environnementale, on ne fera pas l'économie d'un débat, premièrement. Ce débat, il a une essence locale, il est ancré quelque part dans un territoire. Donc il faut qu'on parvienne à l'organiser, sans doute mieux qu'on l'a fait dans pas mal de circonstances compte tenu de de l'urgence. Il faut aussi tenir compte du dédommagement. La question se pose pas simplement pour les minerais, elle se pose également sur l'acceptabilité des éoliennes, du photovoltaïque, etc. On passe de systèmes dans lesquels nos systèmes énergétiques étaient très concentrés pour l'essentiel, et puis nos minerais, nos matières premières, y compris fossiles, on les importait. Là, il faut s'organiser différemment. Donc, on ne coupera pas naturellement un débat très profond. Alors, la CNDP, la commission dédiée au débat public, est là pour cela. J'entends que notre auditeur n'est pas totalement convaincu de ce qu'il a pu observer. Si je comprends.
On verra, parce que nous avons aussi Hugo avec nous. Bonsoir, Hugo.
Bonjour, Fabienne.
On vous écoute, Hugo.
Et eh ben moi je voulais juste donner un petit exemple. Autour de chez moi, il y avait un projet d'une mine de tungstène qui a été abandonnée il y a peu. Au départ, j'étais plutôt contre ce projet par principe, et parce que voilà, on ne sait pas forcément ce qui va se passer quand on va créer une mine. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé ça bien hypocrite, parce que au quotidien, on a besoin en fait de ce genre de métaux, et du moment que l'extraction se fait dans des pays en voie de développement, à l'autre bout de la planète, ça ne nous pose pas de soucis. Et dès que c'est à côté de chez nous, ben, on est content. Donc du coup, voilà, il y aurait une réflexion à avoir sur comment arriver à faire plus de communication, à intégrer la population locale dans la prise de décision pour ce genre de projet. Je pense que c'est important si on veut arriver à garder, comme vous disiez, la souveraineté.
Merci beaucoup, Hugo. Vous allez peut-être pouvoir répondre à Hugo, Olivier de Mougin, parce que vous l'avez eu, vous, cette relation avec les habitants autour de la mine de l'Allier. J'imagine que, au fond, est-ce que tout le monde ressemble à Hugo au début? Alors, certainement pas, il n'en est pas question. Et ensuite, on explique et ça va mieux? Ou est-ce qu'on est toujours aujourd'hui en train d'expliquer ce qu'on va faire?
Il y a évidemment toutes les réactions possibles face à un projet de ce type-là. On a l'expérience. Le lithium, pour nous, c'est la fin de la décennie. On opère déjà une trentaine de sites en France, plus de 2000 personnes. Et en fait, ce qui est critique, il faut bien se rendre compte, c'est pas uniquement nécessairement ce qui fait la une des journaux. Il y a par exemple, dans la liste des minéraux critiques de l'Union européenne, le feldspath. Le feldspath, ça sert à faire du verre, à faire de la céramique. Et donc, c'est critique parce que 50% du feldspath en Europe vient de Turquie. Si pour une raison ou une autre, ce n'est plus disponible, mais on n'a plus de verre et on n'a plus de céramique. Et évidemment, ça aura un impact sur notre vie quotidienne. Donc, il faut bien se rendre compte que le sujet est les mines de toute nature, quoi. Il ne s'agit pas uniquement de quelques minerais en particulier. Et pour revenir aux commentaires d'Hugo, notre travail, c'est justement de dialoguer avec les gens qui habitent autour de nos sites. On l'a fait dans le cadre du lithium et on le fait au quotidien. Nos patrons de sites, une partie de leur métier, c'est de dialoguer avec les gens qui habitent autour de nos sites pour trouver des solutions, pour que l'impact soit le plus réduit possible.
Christophe Poinceau, notre auditeur, Patrice, disait qu'il habite donc en Lorraine et il pense avoir entendu, en tout cas, qu'il pouvait y avoir du lithium. Moi, j'ai lu en préparant cette émission qu'il y avait un certain nombre de choses en Bretagne et que pour l'instant n'avaient pas été cherchées, précisément parce qu'on s'est dit que le coût-rendement, finalement, ne valait pas la peine. Qu'est-ce qu'on sait dire? Est-ce qu'on sait pointer déjà? Est-ce que vous êtes capable de mettre des petits drapeaux en disant un jour ici, peut-être là-bas? On sait faire ça déjà ou pas?
Alors, partiellement. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il y avait un inventaire qui avait été fait une quarantaine d'années, et puis à ce qu'on a pu découvrir au fil de nos travaux. Donc, on connaît déjà un certain nombre de gisements, effectivement, d'intérêt. On sait mettre des petits drapeaux. Mais ça reste extrêmement parcellaire, extrêmement, je dirais, localisé, lié à nos études. D'où l'importance de relancer un travail beaucoup plus conséquent. D'autant que, entre-temps, on a pu faire des travaux un peu de géologie prédictive, si vous voulez, qui nous montrent que dans nos vieux massifs, hercynien, comme diraient les géologues, nos vieilles chaînes de montagnes qui ont été érodées, je pense au massif central, je pense au massif armoricain, et puis certaines parties de nos chaînes de montagnes, on a potentiellement des ressources importantes, et en particulier en lithium. Le lithium est typiquement un élément sur lequel on est sans doute un des pays européens les mieux dotés a priori. Encore faut-il qu'on réussisse à trouver ces gisements. C'est bien tout le sens du travail, quelque part, qui se redémarre maintenant, qui avait été arrêté pendant assez longtemps. Et pour rebondir sur votre auditeur, donc effectivement, on sait que il y a du lithium dans les ce qu'on appelle les aquifères profonds, si vous voulez, donc les couches géologiques dans lesquelles on a de l'eau salée qui circule profond en Alsace.
Christophe Poinceau, pardon, tant que je vous tiens, profond, ça veut dire quoi?
Profond, ça veut dire qu'on parle de plusieurs milliers de mètres de profondeur, voilà, là, typiquement sur ces aquifères. Okay. Donc, okay. C'est des eaux qui ne pourront jamais servir pour l'alimentation, pour l'irrigation, etc., qui sont impropres. Par contre, qui contiennent des sels minéraux, parce qu'elles sont restées très longtemps en contact avec la roche. Et donc, dans ces sels minéraux qu'on y rencontre, il y a notamment du lithium. Et d'où les projets de développement en Alsace sur de la géothermie qui permettrait aussi de récupérer ce lithium en parallèle.
Ça a du sens, Patrice Geoffrand, de parler de notre territoire, en fait. Ou est-ce que ce que tu es en train de nous expliquer, Christophe Poinceau, doit être fait, peut-être, et déjà fait à l'échelle de l'Europe, parce que c'est comme ça, de toute façon, que les choses vont se réfléchir.
Écoute, commençons chez nous, si je puis dire. En tout cas, bon, évidemment, ce qu'on peut espérer, dans le contexte actuel, il y a un aggiornamento, une mise à jour d'un certain nombre de politiques européennes et qu'on comprenne la nécessité de se mobiliser. En gardant à l'esprit ce qui était le point de départ, le temps long, c'est-à-dire que nos questions de souveraineté dans ces domaines
est vraiment très long.
Elles vont pas être résolues quoi que nous fassions d'ici. Et on peut gagner au mieux, selon la manière dont on va s'y prendre, quelques semestres. Hein. C'est plutôt l'ordre de grandeur, et je reprends ce que disait Olivier. Voilà. Néanmoins, l'identification, et d'ailleurs ça n'a pas été évoqué, mais il est possible qu'en Lorraine, il y ait également de l'hydrogène blanc. C'est-à-dire un hydrogène natif qui soit décarboné, et qui est potentiellement, qui viendra en substitution à l'hydrogène gris produit à l'heure actuelle, qui est produit assez largement à base de fossiles, à base de gaz, et donc qui peut concourir. Donc voilà, notre auditeur va avoir sans doute à s'insérer dans différents débats locaux, mais tout ça n'a de sens, me semble-t-il, que si on parvient à avoir un débat public également à la maille nationale, dans lequel on inscrive le sens de l'action locale. D'ailleurs, c'est ce que dit la Commission nationale du débat public, il est dangereux de voir émerger un débat local qui ne s'inscrive pas dans une logique nationale. Voilà, en termes de mobilisation, ça peut donner des choses contre-productives.
Olivier de Mougins, j'ai vu que vous vouliez intervenir. On retourne au standard, juste après vous.
Oui, la Commission nationale du débat public, on vient de faire l'exercice, justement. C'est plusieurs mois de dialogue, dans beaucoup de formats, beaucoup de localisations. Et c'est très riche, en fait. On apporte les réponses qu'on a déjà sur les sujets qu'on évoquait, l'eau, la poussière, le bruit. On explique notre projet. Dans le cas du lithium dans l'Allier, c'est une mine souterraine sous une exploitation existante. C'est des transferts de matière par train, par des conduites par eau. Enfin, voilà, on réduit, on n'est que les engins électriques. On réenfouit une très grande partie de ce qu'on extrait. Voilà, c'est tout ça qu'on peut expliquer, comment on réduit notre impact très concrètement.
Ça veut dire que vu de l'extérieur, c'est moins violent que pouvaient l'être les mines dont parlait Patrice Geoffrand, celles de son enfance.
C'est un autre monde, ça a un coût et c'est un effort qu'on veut faire.
Alors que pouvaient l'être ces mines ou que peuvent être des mines à l'heure actuelle ? Moi, il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'aller en Guinée, qui est un grand pays très riche, et notamment pour la bauxite. La bauxite sert à produire de l'alumine, qui sert à produire de l'aluminium qu'on trouve un peu partout. Et les conditions d'exploitation de la bauxite en Guinée sont absolument terribles, en termes de dévastation des écosystèmes, de santé publique. Donc voilà, il faut également avoir ce comparatif à l'esprit.
On se demande si on creuse en France, il faut creuser des mines, aller chercher des minerais, aller chercher des terres rares. Dans le téléphone sonne avec Olivier Dumougin, qui est le directeur de la stratégie du groupe Imerys, avec Patrice Geoffrand, qui est professeur à Paris Dauphine et qui est directeur du Centre géopolitique de l'énergie et des matières premières, avec Christophe Poinceau, qui est directeur général du BRGM et qui sait donc ce qui se passe à l'intérieur de nos terres. Avec vous, Clara, également. Bonsoir, Clara.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, j'ai appelé pour une réflexion. C'est est-ce qu'une mine peut dynamiser économiquement un territoire ? Et ça, enfin, il me semble que ça représente un intérêt dans ce sens-là. Je pense justement à l'Allier que je traverse de temps en temps et je vois certains villages qui sont complètement désertés. Et j'ai quand j'ai entendu parler de ce projet de mine dans l'Allier, le premier truc qui m'est venu, c'est ça peut redynamiser économiquement ce territoire. Maintenant, la question, elle est plus large. Est-ce que c'est possible d'exploiter une mine en respectant la terre ? Ça, c'est ce que vous étiez en train de débattre. Ça s'oppose, en fait, développer l'économie d'un territoire en opposition, est-ce qu'exploiter une mine, c'est possible de le faire de manière écologique.
Merci beaucoup pour votre question, Clara. Vous pouvez reprendre la route parce que je sais que vous êtes garé en nous attendant. On a Binge sur WhatsApp qui nous dit ceci. Vous parlez d'assentiment de la population locale. Une mine est un centre de profit important. N'y a-t-il pas un modèle économique permettant de faire bénéficier aux populations locales les retombées sonnantes et trébuchantes, financement participatif ou pas ? C'est donc à vous que je vais poser la question, Olivier Dumougin. un, effectivement, pour la population locale, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, là, en termes d'emploi, mais quand même aussi à l'inverse, parce qu'une fois qu'on a creusé dans un endroit, est-ce que à terme, alors pour ceux qui y travaillent, bien sûr, mais est-ce que à terme, ça fait fuir des gens qui ne s'installeront plus dans ces lieux-là ?
C'est pas l'expérience qu'on en a. Alors, pour donner un peu de chiffres, le projet dans l'Allier, on parle de 1000 emplois, l'ordre de grandeur, c'est 1000 emplois, ce qui est évidemment majeur dans un bassin d'emploi comme celui de l'Allier. Et ça va être des emplois qualifiés, ça va être des gens qui vont piloter les installations industrielles, ça va être des ingénieurs procédés, ça va être des agents de maintenance, ça va aussi être des emplois indirects, des conducteurs d'engins, etc. Et vous parlez de la fin de la vie de la mine, eh bien nous on travaille sur des projets de restauration dès le début de la mine, on sait comment on va la restituer à son environnement par la suite. Ça va être des sentiers de randonnée, ça va être des lacs, ça va être des terres agricoles.
Ça va être des lacs, ça veut dire que ça donne une idée quand même de ce qui va être bougé quand on se dit qu'on peut faire un lac à la place ce sera fini.
Ça peut être des petits lacs, mais ça dépend un peu des sites, etc. Mais on restitue vraiment un milieu qui est différent, évidemment.
Mais ça veut dire que quand vous creusez, vous pensez déjà à ce que vous allez faire quand vous aurez vidé.
Absolument.
Mais ça veut dire aussi que vous savez la durée de vie, par exemple, de cette mine de l'Allier. Vous le savez déjà. Vous savez qu'au bout de, j'en sais rien, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on l'aura vidé de son lithium.
Non, on sait déjà qu'elle a au moins quelques dizaines d'années.
Okay.
Et après, le travail des géologues, c'est d'aller justement prouver au fur et à mesure de l'exploitation, d'aller avoir plus de certitude sur les 20 ans d'après.
D'accord. Christophe Poinceau, vous vouliez intervenir, on vous écoute.
Oui, je me permets effectivement de préciser une de nos missions au BRGM est de gérer pour le compte de l'État une partie des anciens sites miniers historiques français. Donc on a développé, acquis une longue expérience dans ce domaine. Et je voulais faire deux commentaires. Le premier pour dire que évidemment, il ne faut pas comparer la mine qu'on essaie d'ouvrir aujourd'hui, donc la mine de demain, avec ce qui a pu exister dans le passé. On n'avait pas du tout cette dimension environnementale, écologique à l'époque. Néanmoins, en gérant ces anciens sites, on apprend énormément sur l'impact sur le très long terme d'une mine. Et tout ce savoir-faire, toute cette connaissance, elle est réintégrée dans la conception des nouvelles mines qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si vous voulez ouvrir une mine, il va falloir que vous expliquiez dans le débat public, vous expliquiez à l'administration qu'est-ce que vous en ferez une fois qu'elle sera fermée, comment vous reviendrez à l'état zéro sur l'environnement.
Vous allez pouvoir répondre tous d'ailleurs, on a une note vocale, c'est une note vocale, non c'est pas une note vocale, c'est complètement une question, c'est Laurence qui nous dit ceci, quelle main d'œuvre pour retourner à la mine ? On a Françoise qui nous dit aussi, est-ce que ces mines sont dangereuses pour les mineurs ? Est-ce qu'on connaît les risques sur leur santé ? Pareil, il y a cette image qu'on a, qui est assez désastreuse et à juste titre d'ailleurs, de ce que pouvait être la mine, est-ce que ça ressemble à ça aujourd'hui encore, descendre dans une mine ou pas, Olivier de Mougins ?
Alors, absolument pas. Je vous invite vraiment à visiter nos sites pour sortir un peu de ces images qui sont très, 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 très sépia. C'est plus du tout la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que c'est dangereux ? Ben non, parce que c'est dangereux, c'est une activité industrielle. Et après, nous, on commence chacun de nos discussions par une question de sécurité parce que c'est notre première priorité. On veut que chaque personne retourne chez elle en bonne santé tous les soirs. C'est évidemment la seule chose qui nous préoccupe avant de commencer quoi que ce soit. Non, c'est pas plus dangereux que n'importe quelle activité industrielle. Là-dessus, on
c'est très mécanisé.
Ouais.
Un élément. Enfin, faut pas imaginer.
Oui, on est d'accord.
Des mineurs qui descendent avec des chevaux au fond.
Oui, ne vous inquiétez pas. Je pense que nos auditeurs n'en sont pas là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le type de travail que ça peut être et la dangerosité aussi de ce travail. Voici Pierre qui nous attend au standard. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors par rapport à ce débat-là, effectivement, c'est la planète actuellement est certainement riche en profondeur, mais elle nous montre à l'extérieur qu'elle est en saturation par rapport à l'activité humaine. Et qu'est-ce que l'on prévoit pour l'avenir, pour nos enfants derrière, c'est l'extractivisme, c'est les mines. Et des mines, effectivement, la mine propre n'existe pas. Donc cette terre que l'on doit préserver, et ben, on va continuer à creuser avec un réchauffement climatique qui va ne faire que s'accentuer, puisque l'extractivisme est très pourfendeur d'émissions de CO2. Donc derrière, quelle société on veut vraiment, quel débat public on veut vraiment aussi en termes de décision, et qu'est-ce qu'on prévoit pour éviter tout cela, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, là, tout simplement la mise en place des propositions de la Commission sur l'environnement qui ont été bafouées par le gouvernement Macron et qui préfèrent satisfaire des entreprises et ses actionnaires, parce que derrière, c'est faut savoir que les entreprises ne sont pas des entreprises d'État. Donc derrière, ça implique effectivement qu'est-ce qu'on et arrêtons cet extractivisme ici comme ailleurs, qui est néfaste pour la planète.
Alors on a à peine commencé avant d'arrêter, Patrice Geoffron, mais ça dit, et je trouve ça, il a raison, notre auditeur, ça dit combien il faut y revenir, combien il faut expliquer, combien il faut donner des chiffres. Ça sert à quoi, pour combien de temps? Parce que si on nous dit effectivement 10 ans plus tard, ce sera épuisé. Donc, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on peut le faire différemment?
Non, bonne question. Moi, évidemment, je suis même surpris qu'elle ne soit pas arrivée plus tôt dans notre débat. Donc, c'est une bonne question. Écoutez, moi, mon boulot au quotidien, c'est d'enseigner à des jeunes gens qui ont 20 ans comment ils vont se débrouiller, y compris en termes de métier, face au changement climatique. Voilà, c'est mon quotidien. Donc, évidemment, ce genre de questions, mais pas... est vraiment inscrit dans mon quotidien et mes préoccupations. Par rapport à ça, il me semble que la question qui se pose à nous en France, c'est la suivante. Nos ressources et quoi que nous dise à l'avenir le BRGM, évidemment, ne permettront pas d'être en autonomie relativement aux besoins que nous avons de minerais, critiques ou pas. La question est plutôt dans un monde complexe et compte tenu des questions environnementales, compte tenu des conditions dans lesquelles, en Chine, en Guinée, peut-être en Ukraine demain, ces minerais sont extraits. Et puis par ailleurs, compte tenu encore une fois des menaces qui pourraient s'exercer à notre encontre, est-ce qu'on a un intérêt collectif à en extraire une partie, qui en toute hypothèse sera une partie assez minime? On ne sera pas autonome dans ces domaines, mais en tout cas nous Européens, est-ce qu'une partie de la réponse se trouve dans notre sous-sol, premièrement? Deuxièmement, comment est-ce qu'on se diversifie et comment est-ce qu'on réduit à l'évidence une dépendance qui est peut-être excessive à l'heure actuelle avec la Chine? Et troisièmement, et surtout, et le troisièmement peut-être doit intervenir en premier rang, comment est-ce qu'on recycle? Comment est-ce qu'on a du progrès technique qui nous permet de réutiliser ces ressources qui, pour une partie d'entre elles, à la différence du pétrole, du charbon et du gaz qui se brûlent dès lors qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on réutilise ces ressources pour la partie recyclable?
Alors, vous avez devancé ma question, j'allais vous parler à la fois de recyclage et aussi de substitution. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, j'ai l'impression de connaître la réponse, mais vous allez me la donner, est-ce qu'on peut dire que nous mettons en place tout ce qu'il faut de toute façon pour recycler et nous permettre au moins d'avoir cette forme de ressources-là qui viendrait de ce que nous avons nous-mêmes? Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, est-ce qu'on est à 2, à 3, à 5, à moins 2?
On est plus près de... Alors, bon, il faut regarder les choses filière par filière, mais de fait, on part de loin. Évidemment, la notion d'économie circulaire avec laquelle on joue depuis pas mal d'années, elle reste encore assez largement émergente. Ce qu'on peut espérer du contexte actuel, c'est que premièrement, compte tenu encore une fois de la pression qui s'exerce sur nous, et puis par ailleurs de la valeur de ces ressources, eh bien, on puisse économiquement les recycler dans de meilleures conditions, mais je parle sous le contrôle d'Olivier qui complétera, évidemment. Il me semble qu'on est plutôt au début qu'à maturité sur ces questions. Mais il y a un enjeu extraordinaire, évidemment.
Christophe Poinceau, vous vouliez intervenir ?
Oui, effectivement, il se trouve qu'au BRGM, on a entamé les études sur le recyclage des métaux et de toutes ces substances il y a une quarantaine d'années, donc c'est un sujet auquel on croit beaucoup, c'est un sujet qui est indispensable, donc oui, on est tous d'accord, je crois qu'il faut vraiment recycler autant qu'on le peut, et on peut faire beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Malgré tout, il faut quand même avoir en tête que ça ne permettra pas de répondre à la demande, en tout cas pendant, un nombre important de décennies qui sont devant nous, parce que à quoi vont servir toutes ces ressources? Revenons aux fondamentaux. C'est pas pour les brûler et comme on peut le faire avec le pétrole, c'est pour construire une infrastructure décarbonée qui nous permette de faire notre transition écologique. Et une fois effectivement que cette infrastructure sera peut-être complètement construite et stabilisée, alors là le recyclage pourra prendre une part plus importante qu'il ne prend aujourd'hui. Je voulais également profiter pour préciser, on parle beaucoup d'extractivisme. Certes, on parle effectivement d'augmenter la quantité de métal qu'on va sortir du sous-sol, mais c'est pour à terme réduire fortement la quantité de charbon, de pétrole et de gaz qu'on espère ne plus sortir. Or, les métaux aujourd'hui, ce n'est que 2% de tout ce qu'on peut extraire du sous-sol. Tout le reste, c'est notamment les fossiles et puis des matériaux. Donc, on joue quand même sur une fraction assez faible de ce qu'on sort du sous-sol. Puis, si vous me permettez un dernier commentaire, parce que je crois qu'il ne faut pas l'oublier dans notre débat, on parle beaucoup de la mine et à juste titre, une mine toute seule ne sert à rien. Il faut son industrie de transformation à côté. Il faut l'industrie pour purifier les métaux et pouvoir fabriquer les objets dont on a besoin. Or, aujourd'hui, c'est sur cette deuxième étape que la Chine est aujourd'hui en position de monopole. Ouais. Donc, si on ouvre des mines, ça n'a de sens que si, en parallèle, on reconstruit une industrie de transformation.
Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'elle a 96% de ce que nous consommons, puisqu'il faut l'expliquer aux gens qui nous écoutent. Ce qui est fait, notamment en République du Congo, revient vers la Chine pour être transformé. Et c'est de là que ça repart. On a Julie qui est vénère, et c'est pour vous, Olivier de Mougins, et qui dit, pour le directeur d'Imiris, il nous fait son greenwashing, nous dit Julie, quid de la pollution générée, air mais aussi sol, eau comme en Bretagne, dans votre mine d'andalousite, pour lequel vous aviez été condamné en 2018. Très vénère, Julie.
Alors, on opère toujours dans les limites des arrêtés préfectoraux. Ça, c'est une condition pour opérer. Comment voulez-vous que nous, on prospère en France si, justement, on se comporte mal? Donc, on a ce dialogue en permanence, on est dans des réglementations très strictes et on opère dans le cadre de ces réglementations. Donc là-dessus, moi je suis
ça
très...
Ça dit jusqu'à quel point les... En fait, ce que j'entends de nos auditeurs, et vous me direz si je me trompe, Patrice Geoffron, c'est à la fois, ils ont bien conscience que peut-être qu'il faudra y aller, et qu'effectivement c'est incroyablement hypocrite d'aller extraire ce matériel-là dans des conditions aussi épouvantables, et en même temps, soyons bien sûrs de ce qui se passe sur notre territoire, ayons les moyens de surveiller très étroitement si d'aventure on se met à creuser plus qu'on ne creuse aujourd'hui.
Oui, faisons-le. C'est bien légitime. Faisons-le avec des règles qui, à l'évidence, sont plus exigeantes en Europe que nulle part ailleurs, y compris en France. Donc c'est un point qui est... Mais encore une fois, sans aller trop loin dans ce débat et sans imaginer que la question qui se pose à nous, c'est de couvrir la France d'exploitations minières et par ailleurs d'industries destinées à transformer ces minerais. Non, il y a une partie de la réponse qui est chez nous. Évaluons cette partie et voyons dans quelles conditions il est possible de l'extraire.
Il nous reste 45 secondes, Olivier de Mougins.
Ouais, juste préciser que, pour élaborer un peu sur répondre un peu à cette auditrice, on réduit nos émissions de dioxyde de carbone, on les a déjà réduites de 28% et on veut faire 42% d'ici 2030. C'est énorme. Enfin, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire en termes d'efforts.
Est-ce qu'on peut espérer, puisque vous nous avez dit que c'était en termes de décennies qu'on voyait des résultats, est-ce qu'on peut espérer que ce que vous connaissez aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous imaginez aujourd'hui, sera très très différent lorsqu'on en sera à l'extraction et peut-être on sera plus propre qu'on l'est aujourd'hui. Il nous reste vraiment 8 secondes, pardon.
Mais... Ah bah c'est, on intègre le progrès tous les jours. C'est vraiment notre travail.
Oui. Voilà, la raison pour laquelle je vous presse, c'est parce que le président de la République va faire son allocution et qu'il y a quand même un peu de pub à avoir. On se retrouve dans moins de 2 minutes.